Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Cube Radio.
C'est-tu la toune de Drew McIntyre qui part?
Non, mais je prends le contrôle de ce podcast, parce que là, bienvenue au podcast extra, là, whatever. Là.
Tu peux faire un petit What He Do Baby?
Ah, on est comme à sans restriction, OK? What He Do Baby? Bienvenue aux Antipodes extra, Kevin Raphaël 21 sur Instagram. Mes invités aujourd'hui, ma guy, Bertrand Hébert, co-auteur du livre, André Lejeune, il est co-auteur. Toré, comment tu dis ça? Il a co-écrit. Plusieurs autres livres, mais ça, comme j'ai vraiment hâte de le lire, ben allez vous le procurer chez Archambault. Comment ça va, Bertrand?
Ça va super bien. Je suis la seule personne au monde qui peut comprendre ce que c'est de travailler avec Pat Laprade comme toi tu le fais.
C'est l'enfer.
Hey, je te jure, je suis sûr qu'il s'est préparé cette ligne-là depuis deux semaines.
Un peu moins que ça, une semaine.
mon autre invité, vous le connaissez super bien. Il fait le podcast, les Antipodes de la lutte. Il fait la lutte WWE Raw sur les ondes de TVA Sport. Charlotte Fred, par exemple. Charlotte Fred, il fait l'intro, l'extra avec nous autres. Mais mon invité, Pat Laprade. Bon. Moi?
Eh bien, merci de m'avoir sur ton podcast, Kevin. Il me laisse même pas le temps de dire rien.
OK.
L'animateur de marde.
Vous à chier. OK, sur les boys, moi, j'ai plusieurs questions. Il y en a des plus petites, il y en a des pertinentes, il y en a des insignifiantes. Mais à la fin de la journée, on va tous vivre un bon moment parce que c'est vraiment exceptionnel ce que vous avez fait. Et je veux encore dire aux gens, allez vous le procurer chez Archambault. Pat, il vous donne du contenu à chaque jour avec les réseaux sociaux pis tout. Donc, allez l'encourager, Bert. C'est des gars d'ici qui travaillent fort, qui ont voyagé pour ce livre-là, qui ont traduit un livre en anglais pis qui ont mis des insides du Québec dans celle-là. Donc, allez vous le procurer chez toutes les aux endroits où ils vendent des livres ou sur...
On appelle ça des librairies, Kev.
À Gonly. Tous les endroits où il y a des livres ou en ligne. Maintenant, je vais commencer avec Bert. Bert!
Oui?
Pourquoi André le Géant, c'était un sujet aussi pertinent pour toi en 2020?
Ben... Suite au document. En fait, pour moi, ça a toujours été un personnage qui est fascinant puis qui a marqué l'imaginaire encore plus ici, puisqu'on l'a vite adopté au Québec comme étant un des nôtres. Donc, il a fait partie de la petite histoire de la lutte au Québec et comme avec Patrick, on écrit à la semaine prochaine, si Dieu le veut, toute l'histoire de la lutte au Québec. Ben, Géant en fait partie puis c'est un personnage important. Et depuis ce livre-là, l'idée de faire une vraie bonne biographie sur l'histoire de Géant Ferré a toujours été en place. Là, on avait pris contact avec son neveu Boris. Et là, le HBO a comme ramené le Géant à la une, si on veut. Et à partir de là, on s'est empressé de replacer notre projet sur la table. Et là, on a eu le go. Et à partir de là, on était déjà prêts. Là, Patrick avait fait beaucoup déjà de travail via le documentaire. Mais après ça, nous, on savait où est-ce qu'on voulait aller avec ça. On voulait un portrait différent de ce qu'il avait été offert jusqu'à présent. Puis surtout, on voulait la vérité. Là. Parce que dans le monde de la lutte, quand on écrit un livre, c'est facile de tomber dans les histoires puis le kayfabe. Mm-hmm. Et dans le cas du Géant, ben Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup là, des histoires comme ça. Donc, on a épluché sa vie, rencontré un maximum de gens, puis on espère avoir amené, oui, l'histoire du Géant Ferré, mais aussi la vie d'André Roussimoff.
Pat, toi, tu avais travaillé sur le documentaire. Bon, tu es un historien de la lutte, tu nous le rappelles à chaque jour. Si tu compares ce que tu savais de Géant avec ce que tu as appris de Géant, c'est quoi le pourcentage, mettons, 50-50, 30-70, 60-40? Est-ce que t'as découvert un côté du géant que tu ne connaissais pas ou tu t'es plus fait confirmer des trucs?
Si j'ai inclus le documentaire, parce que je veux pas...
On part avec le documentaire.
Oui, exact. Avec le documentaire, je te dirais, c'est probablement 50-50. Il y a beaucoup de choses que je savais pas. Il y avait pas d'histoire qui avait été confirmée. Ne serait-ce que l'histoire de Samuel Beckett. Je sais pas si tu la sais. Samuel Beckett, c'est un prix Nobel littéraire. Un gars d'Irlande qui a eu une maison à Molien, le petit hameau là, de moins de 100 personnes, où le géant a grandi avec sa famille. Mm-hmm. Et puis, l'histoire disait que Samuel Beckett, à un moment donné, bon, le géant était trop grand pour entrer dans l'autobus pour aller à l'école. Et que là, ben, le père du géant qui avait aidé Samuel Beckett à bâtir sa maison lui a demandé un service, c'est-à-dire de lifter le géant à l'école puis de le ramener parce qu'il y avait un pick-up puis il pouvait le mettre dans sa boîte de pick-up, comme ça, il n'y avait pas de toit. Ben, quand on a parlé à la famille, à un des frères du géant, Antoine, c'est une des premières choses qu'on lui a demandé avec le documentaire, avec Jason, qui a aussi si tu sais le réaliser de Last Dance. Et il nous a raconté la vraie histoire, mais il a dit, les gars, il n'y avait pas d'autobus scolaire à l'époque. En partant, il n'y avait pas d'autobus scolaire. Comment impossible l'histoire? Et non seulement ça, le père a jamais aidé Samuel Beckett à bâtir sa maison.
Wow.
Ce qui arrivait, c'est que le voisinage, souvent, les enfants marchaient 2,4 km, 2,5 km aller-retour à chaque matin et à chaque après-midi. Mais quand le voisinage se promenait en auto, ben il voyait les enfants, il les embarquait puis il leur donnait un livre des fois. Fait que Beckett a été un des voisins qui a donné des lifts. Est-ce qu'il a embarqué le géant? Probablement. Mais c'est pas comme s'il avait juste embarqué le géant parce qu'il était trop grand. Ça a été complètement distorsionné comme histoire.
Bert, bon, il y a 600 pages, plus de 600 pages, plus de 100 photos. Bon, j'ai vu quelques-unes des photos.
Il y en a une de toi?
Oui, j'ai une de moi, let's go. Mais il y a plusieurs photos. Comment vous avez eu les droits?
Ah, ça, c'est un travail de longue haleine en partie. Donc, nous, depuis qu'on a travaillé sur à la semaine prochaine, si Dieu le veut, on accumule des archives, des électroniques.
Iconographique,
mais électronique, de toutes les photos, de toutes les collections que les gens ont partagées avec nous, là, que ce soit des membres de la famille ou des lutteurs eux-mêmes. Et on a donc tout ça. La plupart du matériel là-dedans, il y en a beaucoup qui est libre de droit. C'est des photos publicitaires d'époque, des trucs comme ça. Donc, ça, on a déjà une partie là-dessus. Ensuite, au travers de ça, on a Mme Linda Boucher au Québec qui a photographié toute la lutte des années 80, qui est devenue une bonne amie. Et donc, on a pu avoir la licence des droits sur des photos de Linda. De là, ECW Press, notre éditeur, a aussi un très bon contact avec la WWF ou WWE, si on veut parler en termes d'aujourd'hui. Et donc, on a pu obtenir là aussi des droits sur des photos. Et là, quand on s'est gâté un peu là-dedans, là, on y était au maximum et on a aussi été chercher le plus de photos possibles qui soit étaient des classiques ou des iconiques ou qu'on n'avait jamais vu. Et là, on se dit que si nous, on l'a jamais vu, il y a peu de gens qui risquent de les avoir vus. Donc, on a pu aller de ce côté-là. Mais au travers de ça aussi, on a un Georges Napolitano qui était un photographe important dans les magazines. On a la famille de Pro Wrestling Illustrated également, avec qui on avait des bons contacts pour avoir des accès et prendre la licence des photos. Parce qu'on sait par expérience depuis à la semaine prochaine, si Dieu le veut, que les images, les photos dans un livre de lutte pour illustrer cette histoire-là, c'est très important.
Si je peux juste ajouter quelque chose sur Bertrand, c'est, tu sais, au fil des années, là, tu sais, on se fait beaucoup de contacts aussi, tu sais. Le Pro Wrestling Illustrated, tu le sais, je fais des trucs pour eux. Bert a longtemps travaillé pour eux. Fait, tu sais, d'avoir le contact de l'éditeur Stu Sachs, ben, c'était facile. C'est quelqu'un à qui, tu sais, on parle, une fois de temps en temps comme ça, ou des mois un peu plus régulièrement. George Napolitano, à chaque fois que je le vois dans un show de lutte, on se met à parler, puis il m'avait déjà dit, n'importe quand t'as les besoins de photos pour André, tu me fais signe. Fait, tu sais, on se fait des contacts avec les amis aussi, avec des photographes.
Puis pour la Princess Bride, ça a été peut-être le challenge le plus difficile. Là, j'ai pris contact avec la production puis la succession là, de ceux qui s'occupent des licences pour Princess Bride, puis on a négocié là, des photos. Ça n'a pas été facile, mais bon, on a quand même réussi à avoir deux superbes photos là, pour le livre, pour illustrer le passage dans ce film classique-là pour André. Non?
Puis ça m'amène directement au point de vous trouvez les gens où? Parce qu'on s'entend qu'il y a des gens qui sont morts, là. Il y a des gens qui sont au Japon. Il y a des gens qui sont en France. Comme vous faites une un ad Facebook, taguez-moi ça. Comment vous les trouvez?
Tu sais, toi, ta technique, c'est slide dans les DM.
Ouais.
Ben, je te dirais que moi, au fil des années, Bertrand, là, il a retrouvé des gens sur Facebook, là. C'était le maître de Facebook. T'as pas idée.
Ah ouais.
Les gens que Guy Horry, c'est un nom qui te dit rien, mais qui va dire quelque chose aux vieux amateurs de lutte d'ici, là. C'était le commentateur des années 80, puis bon, il y a eu un rôle plus important et tout. C'est la télé lui appartenait un peu au Québec, puis Bertrand l'avait retrouvé là-dedans. Et, écoute, tu sais, vraiment, Bertrand était écœurant sur Facebook. Mais tu vois, tu m'as fait penser, tu parles, mettons, on a eu des photos du Japon.
Ouais.
Ben moi, j'étais à Waterloo, en Iowa, un temple de la renommée, il y a 3 ans. Et là, je me mets à passer un bon moment avec voyons, c'est quoi son nom, Koji Miyamoto, qui reçoit un prix ce soir-là pour ses, parce que c'est un historien de la lutte, il a écrit sur Lutèce beaucoup, et tout ça, sa fille, son garçon sont là, sa femme, j'ai du fun avec toute la famille, t'sais, moi je suis ce genre de gars-là.
Oh, c'est social.
Ben oui, exactement, et il me donne une belle entrevue pour parler du géant au Japon, puis ensuite on garde contact, il nous a traduit, là, lui puis son fils nous ont traduit un magazine au complet du géant japonais.
Ouais.
J'ai envoyé par scan à son fils. Lui, il montrait à son père, puis il réécrivait ce que son père lui disait. Puis à un moment donné, il m'a dit, j'ai des photos pour toi, pour le livre. Il dit, je peux-tu les envoyer? Il m'a envoyé des photos de Tokyo. Je les ai retournées à Tokyo une fois. Il y avait les négatifs. J'ai scanné on a trouvé une machine pour scanner des négatifs. C'était complètement fou, là. Fait que les photos du Japon, on les a eues, là. Compliment de Koji Miyamoto. On a eu les photos de la famille aussi. On a oublié de mentionner ça, mais la famille, quand j'étais en France, j'avais tout scanné la collection de photos des deux frères du géant. Là, j'ai pas niaisé avec ça. Là.
Mais Bertrand, je t'envoie la balle là-dessus. Pourquoi tu penses que les gens voulaient autant vous aider pour ce livre-là sur le géant? Parce que oui, le géant, c'est une figure importante, là, mais man, le gars, il est au Japon. Là. Il est pas obligé. Là. Pourquoi les gens voulaient autant embarquer pour le géant?
Mais le géant, c'est un personnage qui a traversé les frontières, là, on s'entend. Là, le géant est une des figures étrangères des plus populaires en termes de lutte au Japon. Il a été extrêmement populaire en Europe et son séjour à WWE a fait de lui une star internationale. Là. Donc tout le monde le connaît en termes de et tout le monde veut participer à ça et c'est on ça. Est tous curieux dans le monde des historiens à savoir qu'est-ce qu'on peut découvrir de plus. Là. C'est d'ailleurs un peu tout ça là, qui nous arrive du côté anglophone. Beaucoup de gens nous disent que c'est une des meilleures biographies de lutteurs, point, qu'ils ont jamais vu, tellement le détail est là, puis tellement on va plus loin là, dans tout ce qui avait déjà été raconté sur André. Donc, tout le monde voulait participer. Puis après ça, ben nous, on a construit au fil des années une certaine réputation là, avec la biographie sur Maurice, la biographie sur Pat Patterson, le livre sur les femmes, Sisterhood of the Square Circle et le Mad Dog's Midget and Screwjob pour le nommer en anglais, là, qui est la semaine prochaine si Dieu le veut. Donc les gens ont confiance. Donc si on parle des Gino Brito ou des Ricky Martel au Québec, ils ont confiance en nous, ils savent qu'on va traiter le sujet avec doigté et avec professionnalisme, puis qu'on rira pas de la lutte. Donc à partir de là, ils sont toujours enthousiasmés de nous aider puis de nous donner tout ce qu'ils peuvent se souvenir puis de nous accorder des entrevue pour qu'on puisse raconter les histoires, qui est aussi un peu beaucoup leur histoire. Donc, à ce niveau-là, les gens, ils veulent nous aider parce qu'on a fait un peu nos preuves et ils sont contents de voir que, justement, la mémoire du géant va être célébrée de cette façon-là, parce que moi, c'est le seul gars, parce que souvent, là, c'est l'année que Pat n'est pas allé à Vegas aussi ici, à la grande convention des anciens à Las Vegas, et là, il y avait Steve Kern, pour pas le nommer, qui est toujours un peu au-dessus de ses affaires, qui a été longtemps, on le voit dans le documentaire sur la FCW, un peu en haut de ses affaires, tu sais, la lutte, business, etc. Et là, j'y parle que notre prochain projet de livre, nous, si on va faire une biographie sur le géant Ferry. Il me sort son téléphone, puis il me montre sa photo de lui, puis le géant.
Ouais.
Mais c'est le genre un peu blasé, la lutte, tu sais, je travaille dans la lutte, mais tu sais, je suis pas un fan de lutte. Mais en 5 secondes, il m'a sorti sa photo du géant sur son téléphone. Donc, le géant était over, même avec ses pairs. Hein.
C'est fou.
C'est un personnage qui est plus grand que nature, mais pas juste avec les amateurs de lutte, mais aussi avec ses pairs. Et ils sont tous curieux. La plupart qui ont lu le livre à date ont appris des choses qu'ils ont jamais su, que le géant ne les a jamais racontées, et qui se doutaient même pas, là.
Stan Hansen, que, ouais. là, c'est celui qui fait la préface du livre. Ouais. Ancien champion de la AWA, grand lutteur au Japon. Stan Hansen, c'est un mercenaire. OK? C'est un gars qui fait
un
rien.
Un mercenaire.
Il fait rien gratuit dans la vie, Stan Hansen. OK? Il y a un autographe, une photo, il va te charger. Quand je l'ai appelé pour lui proposer l'idée de la préface, il était tellement content de pouvoir honorer la mémoire d'André parce que lui considère que sans André, il n'aurait pas eu la même carrière qu'il a eu au Japon, puis il l'a beaucoup aidé. Il m'a jamais parlé d'argent. Jamais. C'est même jamais venu proche.
Ah ouais?
Ça, c'est pas... Stan Hansen ne fait pas ça d'habitude. Fait que, puis tu sais, il m'a texté pour me dire « Hey, j'ai appris des choses, j'ai vraiment aimé le livre. »
Moi, tu m'avais dit.
Tu sais, ça, des réactions comme ça, là, on en a eu beaucoup. Puis, je trouve que c'est très parlant d'un gars de Stan comme Stan Hansen.
La raison pourquoi je rentre pas dans le détail du livre en ce moment, c'est parce que je veux que les gens aillent l'acheter. Puis, je trouve ça plus beau vous entendre parler de comment vous avez construit ce chef-d'œuvre-là que racontez-moi des histoires sur le géant. Moi, je veux savoir, vous avez fait combien d'entrevues? Vous avez parlé à combien de personnes?
Ah, je dirais.
Pas fait le calcul.
Je dirais pas loin d'une centaine, Bert.
Ben, ça doit jouer là-dedans, là, mais c'est difficile parce que, exemple.
C'est quand même
Françoise,
fou, là.
Françoise Valois, on l'a interviewé pour. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Madame Valois est décédée depuis, mais il y a des parties de cette entrevue-là dont on s'est servi. Pour le livre sur le géant, parce que c'est des parties qu'on n'avait pas nécessairement utilisées dans le premier livre. Mais en même temps, la sœur de Françoise, qui le nom m'échappe en ce moment.
Michel.
Michel. Donc, Michel, on l'a interviewé pour la première fois cette fois-là, tu sais. Donc, c'est comme des dominos qui tombent des fois. Donc, c'est difficile à calculer, là. Et moi, ce que je trouve toujours... ben triste à la fin d'un livre comme ça, là on publie, puis souvent on va comme on commence presque malheureusement toujours nos livres comme ça à la mémoire des gens qu'on a perdu en cours de route là. Et bon, je regarde rapidement, j'allais devant moi là, tu sais, Gene O'Curlin, que j'ai interviewé pour le livre, qui a connu André plus personnellement,
Mean Gene,
les Don Leo Jonathan, Michel Justice Dubois,
Jacques Rougeau le père,
c'est tous des gens qu'on a interviewés. Jackie Vieux, qu'on avait interviewé pour À la semaine prochaine, si Dieu le veut. On n'a malheureusement même pas pu l'interviewer pour le livre sur le géant, parce que malheureusement, M. Vieux est décédé durant qu'on était en train de faire l'écriture. Donc tout ça, c'est pour ça que c'est tellement important de pouvoir parler à ces gens-là, un maximum de gens. C'est d'ailleurs pour ça que d'autres gens qui nous avaient quittés, ben, qu'on n'a pas pu interviewer, tout documentaire qui pouvait exister, que ce soit un shoot interview, une biographie, un article de journal, une entrevue dans une newsletter, tout ce qu'on pouvait retrouver en lien avec le géant, ben ça fait partie de notre recherche. Là. C'est pour ça, là, il y a presque 10 pages de référence à la fin de l'ouvrage.
Il y a aussi un gars à qui moi j'ai parlé, le tout premier match du géant au Québec contre Cowboy Jones. Ouais, ben moi j'ai retrouvé Cowboy Jones, qui s'appelle Zero Cowboy ou Jones. Il s'appelle Alexandre Lépine.
C'est malade.
Il y a 80 ans passé, le monsieur, et je pense que c'est la première fois qu'il racontait ou qui se faisait poser des questions sur son premier match avec le Jean Ferry dans les médias. Là, il l'a sûrement raconté à sa famille, à ses amis. Mais là, on a l'histoire. C'est la première fois que cette histoire-là est racontée. Tu comprends? Donc, c'est ce qui me fait un peu de la peine qu'il n'y ait pas de lancement officiel l'avait prévu. Parce que ce gars-là, je l'aurais invité. J'aurais aimé ça qu'il se fasse interviewer lui aussi. J'aurais aimé ça qu'il puisse en parler du géant. J'aurais aimé ça qu'il rencontre les anciens, l'ancienne gang. Et c'est ce qui est un peu décevant la situation actuelle, bien sûr.
Ben, tu sais quoi, on va l'inviter sur les Antipodes, il nous fera un appel et ça m'intéresse de l'entendre parler. Parce que là, quand vous commencez la construction du livre, ça a pris quoi, 2 ans et demi?
Deux ans à peu près.
Un bon 2 ans.
Bon, vous commencez tout ça, vous avez déjà des idées préconçues, vous avez déjà des histoires que vous pensez que c'est vrai. Est-ce qu'il y a une histoire que vous étiez comme, damn, ça c'est nice, puis dans le fond, ah oh, shit, c'était kayfabe?
Tu faisais une histoire que
toi dans ta tête là t'es comme ouais c'est vraiment nice que c'est arrivé à André Géant, puis là tu fais ta recherche, tu fais oh god damn,
c'est pas arrivé comme ça.
Ouais.
Ah ben écoute ça, l'histoire des magazines, moi c'est une histoire c'est peut-être celle que j'ai fallu que je travaille un peu plus. La légende dit que Jerry Lawler voulait absolument faire le cover d'un magazine à l'époque où il était pas encore passé à cette étape-là. Et finalement, il y a un combat contre le géant dans son territoire. Et puis, il envoie les résultats à Bill Apter, qui gérait les magazines dans le temps. Bref, l'histoire dit que le cover du magazine, c'est Jerry Lawler, qui fait finalement sa première couverture. Et le titre dit « La soirée qu'un nain a battu un géant ».
Wow!
Et là, Vince McMahon, le père, est pas content de ça. Parce que t'es en train de dire qu'il y a un nain qui a battu un géant, puis là, c'est mon géant, puis moi, il m'attire de l'argent, puis il me fait faire de l'argent et tout ça. T'as Jerry Jarrett, le père de Jeff, qui a raconte l'histoire dans son livre. T'as Bill Apter qui raconte l'histoire dans son livre. T'as Jerry Lawler qui raconte son histoire dans son livre. Trois versions différentes. Peux-tu croire que les trois ont pas la bonne version?
C'est ça. Ben c'est OK. Fait que la bonne version est dans le livre.
La bonne version est dans le livre. Il a fallu que je parle à Stu Sachs, l'éditeur du PWI qui était là à l'époque, qui nous a trouvé le bon magazine, la bonne histoire. Puis là, on raconte, puis je sais...
Dis-le pas!
Non, je le sais. Mais on la raconte, cette histoire-là, dans le livre.
Wow!
Tu sais, fait à quelque part, il a fallu faire nos recherches, puis pas juste accepter l'information qu'on nous donnait. Puis je pense que ça, c'est à défaut d'être humble, là, c'est une de nos belles qualités, ça.
Ben, je pense que les gens, ils vous le disent aussi. Ouais. Là. Toutes les entrevues que j'ai écoutées que t'étais là, Pat, le premier compliment, c'est la recherche est insane. Bert, toi, t'as-tu une histoire que dans ta tête, c'était vrai, puis dans le fond, c'était kayfabe?
J'ai rien qui me vient en tête vite comme ça. Je te dirais ça, l'histoire de Lawler, ça a été tellement répété et galvaudé par tout le monde dans la lutte que ça l'a pris sa propre vie. C'est une histoire là, qui est devenue légendaire et personne la raconte de la même façon.
C'est fou.
Parce que souvent, on va se servir de la mémoire seulement dans la lutte hein, pour raconter. Puis fait que ça, avec le temps, ben ça se déforme un peu.
Peux-tu croire que la WWE sur son site web, parce que moi je fais des recherches, tu sais, à un moment donné, Vince McMahon père décède.
Ouais.
Et je veux trouver où le géant est dans le monde cette journée-là. Et là, je fais des recherches, puis là, je m'aperçois qu'il y a comme deux dates. Il y a une autre date qui me sort. Ben, peux-tu croire que, après avoir fait des recherches, la WWE, à ce moment-là, je sais pas si ça a changé, sur son site web, n'a pas la bonne date de décès pour le fondateur de la compagnie Vince McMahon Senior.
C'est incroyable.
Moi, à partir de là, j'ai comme fait, OK, il y a des gens qui devraient être congédiés, là.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Y a-t-il une histoire dans le livre, sans que vous rentrez dans le détail, une histoire vraiment underrated, là. Tu sais, là, vous allez parler d'Hogan, puis d'André, puis André en France, ici.
Au Japon.
Y a-t-il une petite histoire, là, que ça vous a surpris, là? Ça vous a glissé, là?
Moi, j'aime bien ce que Gino Brito nous a raconté parce qu'elle touche directement le territoire de Montréal. Puis c'est quelque chose qui n'avait pas effleuré vraiment à l'époque quand on avait parlé avec Gino. Puis c'est superstar Billy Dee Axe des Demolition qui nous a mis sur cette piste-là. Quand le géant a vendu ses parts, qu'est-ce qui se passait?
Okay.
Et là, avec ce que Gino a rajouté, il semble que le géant et Dino Bravo avaient des frictions. Dino était pas un grand amateur de Français de France. il aimait pas non plus Édouard Carpentier, puis ça a l'air qu'avec le géant, c'était pas toujours rose, là. Dans son dos, Dino pouvait appeler le géant le grand fainéant. Donc, à partir de là, il s'est passé quelque chose. On a réussi à coller assez de morceaux ensemble pour voir qu'après une tournée au Japon ensemble, c'est tout de suite après que le géant va demander qu'on vende ses parts. Donc ça, ça m'a comme... j'étais à terre parce que ça avait toujours été un peu vague. Il n'y avait pas de raison. On pensait que c'était en lien avec le fait que Vince McMahon voulait avoir l'exclusivité, fait que donc il s'était débarrassé de ses parts. Mais c'est pas comme ça que ça s'est produit. Et selon Superstar, ça allait quand même ébranler André un peu à l'époque, cette histoire-là. Là. Lui, il s'était senti poussé vers la porte dans tout ça. Là. Donc ça, je trouvais que c'était...
J'ai hâte de le lire.
C'est une histoire qui vient me toucher, moi, parce que les années 80 plus international, c'est là que j'ai appris à aimer la lutte. Donc chaque petit détail, chaque morceau du casse-tête est merveilleux pour moi. Là.
Vas-y, Pat.
Moi, il y a une histoire qui est complètement anodine, là, mais quand j'ai vu ça, je me souviens d'avoir comme trippé sur ma chaise devant mon ordi. Pour vrai, quand tu vas savoir c'est quoi, c'est ridicule. Je fais beaucoup de recherches, hein, veux pas. Donc, je suis abonné à des sites comme newspapers.com. Ouais. Je fais des recherches, Andre the Giant, telle année. Bon, puis là, il y a plein d'affaires qui me sortent. Et à un moment donné, je m'aperçois qu'il y a un concours de bombes. Tu sais, une bombe dans une piscine.
C'est sûr que tu niaises, Pat.
À Vancouver.
C'est sûr
que tu niaises. Que le géant avait été invité pour en faire partie. Je te jure, j'ai vu l'histoire, puis il y avait d'autres lutteurs qui avaient là.
C'est sûr que tu niaises.
Je te jure, il y a un championnat de bombes. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en anglais, on l'a traduit
belly
en français. Hein?
Belly Flop.
Belly Flop. Il y a le World Belly Flop Championship.
Ah, shit.
Et là, je vous dirai pas. Je voudrais pas s'y arriver avec le géant.
J'ai hâte de lire.
Mais pour vrai, là, je me rappelle, je jubilais au bout de ma chaise. J'étais là, c'est tellement anodin, mais en même temps, ça démontre tout le niveau de recherche qu'on fait.
Ouais.
Parce que pour être tombé là-dessus, là, tu fais pas Belly Up Championship Andre the Giant sur Google. Non. Tu le sais pas que ça existe.
Wow. Bon, Andre le géant, il a affronté beaucoup de gens. C'est quoi votre dream match qui n'a pas eu lieu avec André le géant?
Puis Bertrand, je te dirais, pour répondre à la question, il faut aussi que tu donnes le temps que le match va durer.
C'est sûr que ce gars-là gagne. Je m'en vais chez nous, man. J'ai même pas mis d'argent dans le parc commun, puis le gars me désuspecte. Là, je pose des bonnes questions pour promouvoir votre livre. Je vais commencer avec toi, Bertrand.
C'était une blague. Rentrons pas là-dedans.
Commence avec toi, Bertrand.
Kevin, faut pas que tu vendes quand tu essayes de te faire pogner de même. C'est de même que tu vas le corps.
Ouais, mais j'ai pas encore ton expérience, Bertrand.
Hey, les gars, c'est parce que je suis là.
Non, fuck toi. Mais y a-tu un dream match qui a pas eu lieu dans ces années-là, mais qu'il aurait dû avoir avec les géants?
Moi, j'ai une réponse, là. Mais
écoute, on en parle un peu dans le livre. Il y a eu, à un moment donné, des pourparlers, puis Bruno Sammartino aurait voulu affronter André, alors que Bruno était à son maximum, et que le géant était en train, là, justement, de devenir cette attraction légendaire-là. Ça aurait été un match qui aurait sûrement attiré beaucoup. Il y avait quand même le risque, là, des deux favoris de la foule qui s'affrontent, mais ça restait l'invincible Bruno Sammartino contre l'invincible Géant Ferry. Donc, on s'entend que ça aurait été certainement un match qui aurait fait courir les foules. Sinon, André a, dans les gens qui étaient là à son époque, sûrement quelqu'un qui a affronté la majorité des gens disponibles. Bien sûr.
Mais là, moi, j'ai une réponse. J'ai une réponse, Bert, puis je veux pas de taille là. Fait que.
OK, ben j'irai pas d'abord.
OK, parfait. moi, ma réponse, Bruno, c'est un bon choix, puis c'est vrai qu'on en parle, mais un autre qu'on parle aussi dans le livre, c'est Undertaker.
Là,
Le géant avait une idée. Et on cite l'Undertaker dans le livre, on lui a pas parlé personnellement, mais bon, il en avait parlé dans une entrevue. Et puis tu sais, on en a parlé sur le podcast, tu sais que avec Last Ride, je vois beaucoup de ressemblances. Encore plus, j'aurais aimé ça voir Last Ride avant qu'on écrive le livre, parce qu'il y a tellement de ressemblances. Il joue aux cartes dans le vestiaire, c'est vraiment le leader. Tout le monde arrive puis vient serrer la main à l'Undertaker comme avec André. Puis les deux se sont croisés pendant peu de temps là à la WWF, mais je pense qu'il y avait déjà un respect entre les deux. Puis écoute, Andre the Giant contre Undertaker, là, ça aurait été j'aurais aimé ça. C'est un des tu sais, le géant, tu cherchais toujours un match comme avec un grand gars pour faire le match du siècle, le combat du siècle, comme avec Jonathan, comme tu sais, avec des gars de 6 pieds 8, 6 pieds 9, et l'Undertaker aurait fité parfaitement là-dedans.
Bon, ce point-là m'amène à un autre point. Les deux, ils ont une relation particulière avec Vince. Vince, t'es plus proche de qui, Taker ou Géant, par rapport à ce que vous avez appris puis par rapport à ce qu'on apprend actuellement avec le Last Ride?
Taker. Taker et Vince, c'est la relation que André est le père de Vince.
Ah, OK.
À mon sens, Bert, je sais pas si c'est d'accord, mais...
Oui, je pense que c'est la meilleure analyse qu'on peut en faire, parce que la fin de la relation entre André puis Vince, Vince en parle d'ailleurs dans le documentaire, André se retrouvait sur la touche, là. Et peu importe la situation, Vince, c'était pour en payer le prix en termes de sa relation, là, parce que il y avait plus de place pour André, puis au final, il y avait qui d'autre que Vince à blâmer, là. Donc, ils n'ont jamais été dans la relation que Vince a aujourd'hui avec Undertaker, là.
Par contre, il y a d'autres corrélations à faire. C'est-à-dire, quand André, il a voulu aller lutter pour Herb Abraham,
UWF.
UWF. Vince le ramène parce qu'il veut pas qu'il aille là. comme Vince a ramené l'Undertaker quand il s'était booké au la convention des EW là, celle qui est jumelée avec EW. Ouais,
il voulait faire Starcast.
Là. Ouais, Starcast exactement, il s'est booké là, puis Vince suite il a dit non, je te ramène. Fait que tu vois, il y a tellement de similitudes, je trouve, entre Taker et André là, c'est vraiment fou.
Bon, là, on va rapper bientôt. Je sais que Burke, il y a des entrevues avec des gens vraiment plus importants qu'il pense.
Moi, je peux faire jusqu'à la dernière seconde.
C'est la place du géant, là, est où? Pour un gars comme moi qui a 28 ans, qui suit la lutte, j'ai aimé le géant. J'ai appris à aimer le géant, j'ai vu le documentaire, il y a plein de choses que j'étais. Mais sa place dans l'histoire se situe où? Parce qu'on parle de Austin, on parle de Hogan, on parle de Rock. Jamais on parle du géant dans ces noms-là. Là.
Ben, en fait, on devrait parler avec ces noms-là.
Ben, vas-y, je t'écoute. Parce que...
Le géant, Hulk a succédé au géant. Mm-hmm. Et ensuite, bon, les autres vont suivre. Mais à ce moment-là, dans le temps, des années 70 jusqu'à WrestleMania 3, là, pour faire des chiffrons dans le temps que les gens vont reconnaître, c'est André qui est la plus grande vedette. Là. C'est lui qui va faire les David Letterman, puis les Tonight Show, qui va être appelé à jouer dans l'homme de 6 millions de dollars et toutes ces choses-là qu'aucun autre lutteur pouvait même aspirer à faire. Ouais. Hulk devient l'évolution dans ça, de donner une chance à un lutteur d'aller plus loin que simplement la lutte, puis de performer dans d'autres situations. André était une attraction hors du commun là, pour son époque également. Là.
Je te l'ai souvent dit, Kev, tu sais, pour moi, un bon lutteur, c'est pas juste ce qui se passe dans l'arène. Ouais. C'est également l'argent qu'il est capable de générer, comment grosse une attraction il a été. Pour moi, c'est ça, un bon lutteur, c'est pas juste ce qui se passe dans l'arène. Donc, c'est sûr qu'André, c'était pas Ric Flair dans l'arène. Mais au niveau de l'argent qu'il a pu amener, du box office draw là, qu'on dit en anglais, c'est sûr que le géant là-dedans, il faut quand tu prends ces critères là pour déterminer c'était qui le meilleur lutteur de tous les temps, André c'est un top 10 pour moi là, facile, c'est un top 10.
Effectivement, là, top 10, on n'a pas le choix là. Puis selon moi là, il est à quelque part entre 6 et 5 là, il pourrait être dans le top 5 là, facilement. Et ce qui est intéressant dans les choses là, qu'on a appris au fil du temps de la biographie là, que j'ai pas mentionné tantôt, c'est justement ça que André était business smart, c'est ce que les boys nous ont dit.
Ah.
Business smart. Donc c'était quelqu'un qui savait très bien son rôle, comment jouer, comment aller chercher la meilleure des réactions, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse dans un match, qu'est-ce qu'il fallait pas qu'il fasse, qu'est-ce qu'il pouvait se permettre de faire. Au niveau business puis de l'histoire là, de couper les cheveux là, Ken Patera raconte que c'était entre autres l'idée d'André là. Il savait qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour que son personnage puis pour que André the Giant est la meilleure résonance avec les gens. Là. Et ça, pour un gars de cette taille-là, d'avoir été le babyface qu'il a été, c'est quand même quelque chose. Là, parce qu'habituellement, un babyface, c'est quelqu'un qui vient par en arrière, comme il est en retard, mais là, il va remonter, puis il va aller. Mais c'est dur là, d'avoir quelqu'un d'assez imposant pour pouvoir mettre André à genoux. Mais il y avait toujours le moyen d'aller chercher cette sympathie-là. D'ailleurs, c'est ce que je pense qui en faisait un acteur qui pouvait quand même sortir des performances là, comme on a vu dans Princesse Bouton d'Or, là, entre autres. Là.
Est-ce que... Bon, c'est plus compliqué comme question, puis je sais qu'il faut pas comparer les années, etc., etc. Par contre, je vais poser la question. Est-ce que, avec tout ce que vous avez appris sur André, vous êtes probablement les deux personnes qui connaissent plus André à part leur famille ou presque, là, puis même là, est-ce que vous pensez qu'André aurait fit dans la WWE d'aujourd'hui?
La réponse est oui et non. Ça dépend comment est-ce qu'on l'aurait booké. Parce que la grosse différence entre l'époque d'André et aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de shows aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas un show comme Raw ou comme SmackDown à chaque semaine où des vedettes s'affrontent. À l'époque, il y avait des matchs de jobber et le géant pouvait faire une entrevue ou puis des fois, ça arrivait des semaines où tu le voyais pas. Donc, les apparitions étaient beaucoup plus espacées parce que c'est une business de house show. Donc, l'important pour le géant, c'était qu'il fasse pas des shows dans des villes trop souvent rapprochées. Ouais. Et c'est pour ça que Vince McMahon Senior avait la formule parfaite à l'époque. C'est que il l'amenait pas souvent à New York. Il l'amenait 3-4 fois par année. Et là, il l'envoyait un peu partout dans le monde, mais il y avait un pourcentage sur ce que le géant gagnait. Donc, lui, il faisait de l'argent indépendamment, peu importe où le géant était booké, il faisait de l'argent. Fait qu'il était pas obligé de l'amener, de l'avoir dans, c'était son gérant. C'était son gérant. Il y avait, mettons, je sais pas moi, 10, 15%, whatever le pourcentage que c'était. Mais quand il l'amenait dans son territoire, ben là, il faisait un peu plus d'argent, mais il y en avait d'autres vedettes pour son territoire. Fait que, parce qu'il a vite réalisé que si le géant, tu l'amènes à chaque semaine, tu vas finir par... Il va perdre l'attrait, il va perdre le côté attraction qu'il y avait. Donc, à quelque part, ça fait en sorte que le géant aujourd'hui, si tu le vois, le Big Show, là...
Ouais. Moi, c'est ma comparaison
ben oui,
que j'ai.
Mais Big Show, tu le vois à son prime, là, tu le voyais à chaque semaine.
Des fois, deux fois.
Ben oui, mais à un moment donné, il devient plus une attraction. Tu sais, tu fais pas, hey, je vais aller voir le géant. Non, non, ça fait 8 semaines en ligne, tu commences même à être écœuré de voir le géant. Donc, il aurait fallu qu'il soit booké comme Brock Lesnar. Ou ce que Brock Lesnar, tu le vois aux 3 mois, fait que quand il arrive, ben tu vas voir ce qu'ils vont faire avec. Puis là, bon, Brock, je sais qu'il y a une connotation négative par rapport à ça, mais le géant, ça aurait été booké différemment. Donc, s'il est booké comme Brock, il aurait pu bien fonctionner. Booké comme Big Show, je pense pas qu'on parlerait de lui aujourd'hui dans un livre de 600 pages.
Parce qu'entre autres, le géant, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il a été entraîné à la base là, en France. Il a été entraîné comme n'importe quel autre lutteur. Donc, il avait une très bonne base de lutte et à son apogée. Le géant était agile, était technique, pouvait faire toutes sortes de mouvements. C'est pour ça que dans le rôle de Brock Lesnar, moi, c'est quelque chose qui m'intriguerait parce qu'on irait rechercher un peu cette partie attraction-là. Là. Voir le géant, ça aurait été spécial. Et je pense que ça a été la clé derrière le géant, c'est de le rendre spécial partout où il passait.
On en s'est parlé là. Si vous aviez une chose, en fait, qu'est-ce qui a été le fun en faisant ce livre-là et qu'est-ce qui a été difficile en faisant ce livre-là? Chacun, là, allez-y. Là.
Si tu réponds à travailler avec moi, je te parle plus le restant de mes jours.
Et je me suis tellement retenu. Bon, fait la gag, on est bon. Ah mon Dieu. OK. Écoutez, difficile. Moi, ce que je trouve le plus difficile, sérieusement, c'est souvent là la fin du stretch là, où on relit et relit constamment les mêmes passages. Et là, on relisait en français et en anglais en alternative. Ça devient à un moment donné un petit peu... c'est abrutissant, c'est parce que là, tu le sais plus. Je l'ai-tu vu, je l'ai-tu pas vu, c'est-tu normal, c'est-tu correct, là, à un moment donné, tu le sais plus, là. C'est pour ça qu'à la fin, quand on reçoit toutes les critiques puis les fleurs, on est comme, OK, wow. Parce que là, on le sait plus à la fin. Ça, je trouve ça plus dur, cette petit dernier stretch-là, parce que, justement, on voit plus l'arbre de la forêt dans tout ça.
Ouais.
Ensuite, ben, chaque découverte est merveilleuse, chaque entrevue est merveilleuse. C'est comme on sait découvrir un trésor à chaque fois. C'est de s'imaginer comment on va pouvoir en parler, comment telle phrase est tellement importante. Moi, il n'y a rien de plus trippant, je pense, que quand on fait une entrevue, de dire, OK, ça va dans le livre.
Ouais,
en arrière, puis là, quand on a fini, puis qu'on s'en retourne, on est comme, ça, là, ça va dans le livre, ça, là, tu sais, là. Tu sais, fait que ça, je pense que c'est le bout le plus fun, le plus trippant. Au travers de tout ça, moi, ce que j'aurais aimé, c'est arrêter vraiment de parler avec André. Quand Paul Vachon nous a dit, ah, il aurait aimé ça, prendre une bière avec vous autres, puis vous raconter tout ça. Tu sais, ça fait un petit vlog, puis ça, me semble que, On aurait pu apprendre tellement, on aurait pu aller encore tellement plus loin si on avait eu vraiment André qui nous raconte tout ça. D'ailleurs, j'en étais tellement obsédé au début que j'ai rêvé à André qui prenait un verre avec moi puis qui nous disait d'y aller puis qu'il nous donnait sa bénédiction. Fait que ça vous donne un peu à quel point on devient investi dans ce type de projet-là. Là. Mais ça demeure une belle aventure puis c'est toujours un travail de passion. Puis on espère toujours que le projet courant amènera au nouveau projet puis au nouveau défi.
Ce qui est le plus difficile pour moi, tu sais, on a chacun nos rôles dans la production d'un livre, moi puis Bertrand, c'est pas le premier qu'on fait. Et je suis un peu plus habituellement en charge de finir par mettre nos deux voix ensemble. Mm-hmm. Parce que c'est pas nécessairement évident, on n'a pas un style d'écriture qui est nécessairement le même. On fait chacun notre partie du livre. Bertrand habituellement de 1980 à aujourd'hui, moi de la naissance, et je vais wow. rejoindre parce que je suis un peu plus fort au niveau de la recherche. Donc, le début, ce jour-là, où on a besoin de plus de recherche. Bert, lui, est tellement bien connu les années 80, puis il a une meilleure mémoire que moi à ce niveau-là. Donc, lui, il part de 80, puis jusqu'à aujourd'hui. Mais à un moment donné, faut mettre ça ensemble. Donc, oui, on se passe les bouts qu'on écrit, puis mais un de mes rôles, c'est souvent d'essayer de donner une même voix, d'essayer de finir par donner un style qui va être un peu plus fluide, puis que ça paraîtra pas de savoir qui a écrit
quoi.
C'est ça, exactement. Ouais. Et ça, c'est toujours un exercice. Puis ça avait été difficile avec Mad Dog Vachon, puis ça a été difficile avec Le Géant. Ça a été un exercice. Surtout qu'avec Le Géant, on l'a fait en anglais.
Ouais, c'est ça.
Mad Dog Vachon, on l'a fait en français. Avec Le Géant, on l'a fait en anglais. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile. C'est pour ça que la traduction, pour moi, ça a été presque rien à comparer à l'exercice qu'on avait fait, parce que là, c'était dans notre langue. Ça venait tout seul. La partie la plus... Le fun, il y en a deux pour moi. La première, c'est quand je trouve des liens. Quand on fait des entrevues, quand on fait des recherches, puis là, je suis capable de mettre les morceaux du puzzle ensemble, puis quand je suis comme, tout fait du sens. Puis là, souvent, la première chose que je fais, j'appelle Bertrand, puis là, tu sais, je confirme si ça a du sens que j'ai trouvé, ou puis Bert fait la même chose quand ça vient de son bord à lui. Puis là, ben on fait comme, OK, là, on a quelque chose. Tu sais, l'histoire se finit par se raconter, puis c'est vraiment cool qu'on s'aperçoit qu'on a tous les morceaux pour la raconter. Puis la deuxième chose que je trouve tellement le fun, c'est ce qu'on fait en ce moment. C'est parler du livre, faire la tournée des médias, parler du processus, parler des anecdotes. Pour moi, c'est une partie que j'aimerais toujours. Et puis, je trouve que c'est toujours valorisant. Tu sais, on le fait pas pour l'argent, Kev. Ouais. Tu le sais, là, tu sais, oh, c'est bon. Ouais. C'est pas avec ça on va se mettre riche. On n'est pas Marie-Lou avec ses livres de cuisine. Ouais. Le cachet ou ce qu'on va pas chercher en argent, bon, on va le chercher dans, tu sais, quand Dave Meltzer nous dit que le livre, c'est un standard d'excellence dans les biographies de Luther, c'est de savoir que des gars comme Guillaume Lefrançois et Jean Tremblay ont aimé puis ont trippé sur le livre. Tu sais, donc, pour nous, c'est ça qui vient un peu, c'est un peu notre paye là-dedans, là, tu sais.
Écoute, je vous remercie de m'avoir donné du temps, d'avoir répondu à mes questions. Je veux dire aux gens, allez chercher le livre. Allez le chercher. Je m'en fous comment. Ben, vole-le pas, achète-le. Mais, mais, commandez-le en ligne. Allez, moi, tu sais, j'ai été à la librairie à côté de la station, j'en ai pris deux. Il y a deux cadeaux.
Les bibliothèques, Kev, peux même, nous, là, les gens savent peut-être pas ça, là, mais nous, on reçoit des ristournes sur les livres qui sont empruntés dans les bibliothèques à travers le Canada.
Oui, mais tu sais quoi? Je veux pas qu'il y ait dans une bibliothèque. Je veux qu'ils l'achètent, puis qu'ils le passent à leurs enfants, puis que leurs enfants le passent aux enfants de leurs enfants. Parce que je veux que tout le monde voit ma photo dans le livre. Fait qu'allez, allez pour de vrai, là, moi, s'il y a une chose que je veux vous rappeler de toutes, là, c'est les cinq dernières minutes de l'entrevue. Les cinq meilleures dernières minutes de l'entrevue, là, vous avez la raison pourquoi je suis investi dans ce livre-là, pourquoi Pat est investi, pourquoi Bert est investi, pourquoi ça vaut la peine de faire un effort d'aller l'acheter. Puis si tu tripes pas Lutte ou si tu tripes pas sur André, t'es trop jeune, offre-le en cadeau à quelqu'un de plus vieux qui va triper. Maintenant, ma question, est-ce que vous allez en envoyer un à Bret Hart?
Je vais l'envoyer, je vais l'envelopper dans un sac à vidange. Il va déjà avoir la moitié de la job de fête.
Hey, mais hey, les boys, merci beaucoup d'avoir donné du temps. C'était bien le fun, pour vrai.
Ben oui, non, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Merci, Kev, d'avoir pris le contrôle du podcast. Je pensais que t'aurais eu un petit quiz en lien avec Le Géant.
Mais non, parce que vous avez écrit le fucking livre. Sur votre quiz, vous auriez eu 5 sur 5. Si vous avez pas 5 sur 5 du quiz, les gens vont dire, les gars, ils ont pas fait une bonne recherche. I'm a marketing guy.
Ouais, je vois ça. Bert, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast Les Antipodes Extra de cette semaine. Excellent, on va retenir ça. Puis, tu sais, Kev, Bert, là, il y a une maudite bonne connaissance de la lutte aussi. Là, fait que
mais
des fois,
c'est ça que j'allais dire à Bert. Bert, moi, j'aimerais ça là, que tu reviennes viennent sur le podcast puis qu'on jase lutte et non pas juste du livre. Parce que là, je m'étais dit, oh, on va jaser un peu de lutte après, mais parce que là, le temps il roule là, puis je veux pas juste jaser de lutte avec toi pendant 10 minutes. Là. Mais ce serait le fun que tu reviennes puis qu'on se fasse un petit un vrai antipode puis qu'on jase de lutte les trois ensemble.
Ben oui, n'importe quand. Puis j'ai beaucoup d'expérience comme arbitre, donc dans les circonstances des dernières semaines, ça pourrait être un plus.
Hey, moi, si j'ai
ces deux, on va jamais t'en sortir.
Si hein? Non, je sais, ça l'a marqué les gens. Si j'ai ces deux gars-là, là, je vais avoir besoin moi-même d'un coéquipier.
Ben Pat, t'en as pas.
Ben je le sais, je sais que ça n'a aucun bon sens.
Hey, merci, boy, c'était belle.
Pour vrai, merci beaucoup, merci Kev d'avoir d'avoir dirigé toute l'entrevue à la maison. Merci Fred. À la maison, on vous rappelle, écoutez notre épisode régulier des antipodes de la lutte. Le dernier, on parle, entre autres, on revient sur NXT In Your House. Ouais. On revient sur un paquet de trucs dans l'actualité de la WWE, AEW, New Japan qui va recommencer ses shows. Donc, écoutez ça. Écoutez notre antipode extra spécial sur Owen Hart.
Puis, oubliez pas, si vous achetez le livre, moi, j'ai pas. Tous ceux qui envoient des questions à chaque semaine, là, vous êtes mieux d'être les premiers qui ont le livre. Fait que quand vous allez avoir le livre, mettez-le sur Twitter, mettez-le sur Instagram dans votre story, on va le repost, on va donner du love.
Et pas juste ça, tu le dis à chaque semaine pour le podcast, donnez-nous 5 Star Frog Splash. Ben, sur Amazon.ca, allez nous donner 5 Star Frog Splash pour le livre également.
Allez suivre Bert,
Bertrand Hébert sur Facebook, Twitter et Instagram. Kev! Merci beaucoup. Mais vraiment, fini, ça a été très apprécié. En mon nom et celui de Kevin Raphaël, on vous remercie d'avoir été là et on vous dit à une prochaine fois. C'est un rendez-vous!